Tunapenda kuhakikishia wenzetu kutuliza kwa kuheshimu hatua zifuatazo za usafi: ni kuosha mikono mara kwa mara na kwa angalifu na sulisho la maji yalimo dawa au kwa maji na sabuni. Weka umbali wa angalau mita moja kutoka kwa watu wanaokohoa au kupiga chafya. Epuka kugusa macho, pua na mdomo. Katika kesi ya kukohoa au kupiga chafya, funika mdomo na pua na viwiko zaidi au na kitambala ya kutupwa mbali baada ya matumizi. Huu ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya ya Umma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkataza wa mapambano dhidi ya ugonjwa wa coronavirus.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Encore une fois, bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. À Kinshasa, la commune de la Gombe est sous le coup du confinement total depuis 2 semaines. Les villes de Goma, Beni et Butembo sont dans l'isolement depuis 14 jours. Alors le confinement de la Gombe se poursuit, ainsi que l'isolement des villes du Nord Kivu. Alors quel bilan faire du confinement de la commune de la Gombe à Kinshasa et de l'isolement des villes de Goma, Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu? Vous, on en parle dans cette émission. Docteur Michel Mouvoudi est notre invité. Il est expert en santé publique et membre de l'équipe des ripostes contre coronavirus. Nous allons également recevoir tout à l'heure Monsieur Moïse Kanyere Kakule, ministre provincial de la santé de la province du Nord Kivu. Docteur Michel Mouvoudi, encore une fois, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Alors le confinement de la Gombe, 2 semaines déjà.
Ouais.
Quel bilan peut-on dresser aujourd'hui?
En fait, le bilan est assez encourageant, hein, mais tout à fait d'accord qu'il y a encore des défis à relever. Mmh. Il faut continuer encore le travail. Donc je vais vous donner quelques statistiques et vous dire un peu pourquoi on en arrive là et qu'est-ce qu'on peut encore faire mieux. Mmh. Alors je reviens sur ce que j'avais déjà dit au cours des émissions passées. La Gombe c'est une commune, c'est une zone de santé qui a autour de 114 000 habitants à peu près. Mmh. Et donc mais ce qu'il faut retenir, je vous dis, c'est que cette commune, cette ville arrive jusqu'à 3 millions de personnes qui viennent justement
le centre
pour
des
le trafic,
affaires,
exact, magasins, oui. Affaires, transactions et tout. Mm-hmm. Et donc vous vous rendez compte qu'avec cet afflux, ok, Gombe devient un carrefour. Mm-hmm. Donc ça veut dire que si justement Gombe est infecté, vous avez très facilement la possibilité d'exporter le virus, ok. Et donc le confinement a eu lieu. Vous avez vu, on a mis en place toute une série de mécanismes de sécurité, de santé publique, ainsi de suite. Et donc ce qui est très intéressant à retenir aujourd'hui, c'est qu'en fait sur les 540 personnes qu'on a dépistées ici à la Gombe, on s'est rendu compte qu'il y avait autour de 500 contacts prélevés, d'accord, presque 500 contacts prélevés, et on a dû détecter autour de 31 nouveaux cas, d'accord. Donc 31 nouveaux cas
dans les deux semaines.
Dans les deux semaines. Oui. Donc ça veut dire que si en fait Gombe était resté dans son parcours normal, dans son profil normal, vous imaginez bien un peu quel serait le risque de contamination. C'est-à-dire qu'on laisserait toutes ces personnes venir autour de ces cas qu'on venait de dépister, donc on aurait éventuellement eu des propagations très rapides de la maladie. Donc ça, c'est très important à comprendre.
Oui.
Mais aussi que lorsqu'on a mis les points de contrôle, vous avez vu qu'il y a quelques points de contrôle au niveau de certaines grandes avenues comme le 30 juin, le 24, ainsi de suite. On a eu déjà à ce niveau-là, exactement.
Oui.
On a eu à ce niveau-là 2 cas confirmés. Donc, ne fût-ce que le fait de prendre la température, de se rendre compte que la personne fait une fièvre, de prélever, on a 2 cas confirmés. Ok. Donc, encore une fois de plus, c'est pour vous dire justement que la maladie circulait à la Gombe, et donc si on n'avait pas confiné, on aurait très probablement accéléré la propagation. D'accord. Alors, au-delà de cette situation, vous avez déjà tout ce qui est information et sensibilisation. Sur les 202 rues que compte la commune de la Gombe, on a sensibilisé, on a passé les messages sur 126 rues, ce qui vous fait à peu près 62%. C'est encore faible, hein, mais je pense qu'il faut continuer. Mais aussi, pour cette population de 114 000 habitants, si vous calculez la moyenne de 7 personnes par ménage, en fait, à la Gombe, il faut compter autour de 16 000 ménages. Donc, le travail qui a été fait, c'est qu'en fait, presque plus de 12 000 ménages ont été visités et décontaminés. Ça vous fait à peu près 75%. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire, on a visité ces ménages, on a passé des informations et on a décontaminé. Mais au-delà...
Est-ce qu'il y a eu les dépistages porte à porte?
Non. En fait, pour le moment, les équipes se sont orientées principalement vers les ménages où il y avait des contacts. D'accord. On se connaissait, on a fait un listage, on sait où il y avait des cas et autour des cas, on a justement cherché les contacts, ce sont ces contacts qu'on a prélevés. Alors, on a désinfecté, hein, les lieux publics. Donc, vous avez vu, par exemple, que on a, sur 19 sites qui étaient, ciblés, on en a désinfecté 11, notamment l'immeuble du gouvernement. On a désinfecté les grandes avenues, on a désinfecté la gare centrale, ainsi de suite. Et les équipes.
Est-ce que le marché central a été...
Le marché central était...
Ça a été fait.
Exactement. Mais on continue encore. Okay? L'idée, c'est essayer de désinfecter tous les lieux là où vous avez le plus grand nombre de gens qui viennent. Okay? Pour que quand on rouvre, que les gens ne viennent pas se recontaminer. Donc, si vous voyez cette peinture que je viens de faire, vous vous rendez visiblement compte qu'en fait, il y avait quand même une raison. En fait, il y avait une raison valable, pertinente de confiner la commune de la Gombe. Pour justement éviter, un, qu'il y ait propagation, mais aussi essayer de scruter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que si, justement, on n'avait pas fait ce travail, je suis convaincu qu'on aurait contaminé des autres communes très rapidement. Mais aussi, le danger, c'est qu'en fait, le flux migratoire des personnes allait empêcher le travail de se faire. Alors, mais notez, je dis que lorsqu'on parle de la Gombe, et c'est ça le message que j'ai donné dans l'émission Dialogue Intercongolais, on ne dit pas que les autres communes doivent relâcher. Et c'est ça le problème qu'il y a. Je crois qu'il faudrait, c'est ici l'occasion, justement, c'est ici pour moi l'occasion d'insister sur le fait que la maladie est dispersée sur l'ensemble de la province de Kinshasa. Donc, lorsqu'on parle de Gombe, c'est parce que c'est le centre principal, c'est l'épicentre. Mais les mesures barrières doivent continuer à être respectées dans les autres communes, dans les autres zones de santé, d'où l'importance de pouvoir vraiment tenir à la vigilance les équipes de sécurité. C'est très important pour la suite de la riposte.
Et quelles sont les difficultés rencontrées durant ces deux semaines de confinement de la Gombe?
Vous avez des difficultés d'ordre technique et d'ordre opérationnel. Donc, je peux les mettre ainsi. Donc, sur le plan opérationnel, en fait, notre défi, c'est de pouvoir vraiment suivre l'ensemble des contacts. OK? Jusqu'à peu, lorsque j'ai évalué avec les équipes qui font ce travail, on se rend compte qu'on est autour de 70%. La raison, c'est notamment la raison est principalement liée au fait que les gens n'ont pas forcément les moyens d'aller dans les ménages et retrouver ces contacts et faire le suivi. Donc, on parle d'un nombre insuffisant de relais communautaires. Je crois qu'il faut continuer là-dessus. Deuxièmement, il y a ce défi, hein, lié justement au nombre de personnes qui doivent se repartir sur l'ensemble de la province, okay, qui compte en 5 zones de santé, pas seulement pour faire le suivi des contacts, parce que les contacts, en fait, je dis, se dispersent. Okay? Quelqu'un peut être malade ici, mais il a eu des contacts qui se sont dispersés sur l'ensemble de la province. D'accord? Et donc, ça demande des moyens qu'il faut mettre à la disposition des équipes locales pour pouvoir traquer ces contacts et justement ramener les informations. Mais aussi sur le plan opérationnel, je crois qu'il faudra mentionner quand même que il y a des personnes, OK, qui sont malades, mais avec ce que j'avais décrit un peu la stigmatisation, il y a des gens qui se cachent, qui pensent que non, voilà, si on apprend que je suis malade,
oui.
on va me stigmatiser, et donc on a encore un travail à faire là-dessus, c'est vraiment essayer d'apporter la bonne information et d'aider les personnes à ne pas voir le Covid-19 comme une maladie de honte et donc du coup à participer, à adhérer au processus de changement qui est mis en place. Alors, sur le plan technique, je crois que le pays est en train de discuter avec l'OMS et d'autres partenaires pour voir comment faire un dépistage de masse. Donc, comment mettre en place un test rapide qui pourrait nous permettre de dépister des grandes masses. Ok, ça peut être par unité. On se dit aujourd'hui, on vient à la radio Capi, on dépiste tout le monde. Ceux qui sont malades sont soignés, ceux qui sont en bonne santé continuent le travail. Demain, on va à la SNEL. Après, on va voir les agents de Marsafco. Oui. Après, on revient.
Ainsi de suite. Ouais.
Voilà. Donc, ça, je crois que c'est un défi sur lequel il faut beaucoup travailler pour essayer justement d'augmenter le nombre des cas dépistés, ok? Et donc, c'est comme ça, justement, que j'ai mentionné que si, justement, on introduit un test qui peut faire des dépistages de masse, il est possible que le nombre de cas augmente. Donc, le nombre de cas augmentant peut aussi être signe de l'amélioration du dépistage, ce qui est bien parce que vous détectez les réservoirs, vous les soignez et vous diminuez, justement, la propagation. Mais entre-temps, je crois que l'élément principal, encore une fois de plus sur le plan technique, c'est qu'on remarque quand même un relâchement sur les mesures barrières. Je crois qu'il est très important qu'on continue à renforcer ce message. Ce matin, je vais vous faire rire, j'ai rencontré quelqu'un qui avait le masque, mais il l'avait au cou. Alors, quand je m'arrête, hein, vraiment sciemment avec ma voiture, je lui dis de remettre le masque. Il me dit, non, je suis d'abord en train de fumer.
Et après,
dès que j'ai fini de fumer,
je vais remettre.
Donc, il a deux problèmes de santé publique. Non seulement qu'il ne se protège pas au Covid-19, mais il est en train de prendre le tabac qui est en fait nocif à la santé. Donc, vous voyez que il faut vraiment qu'on travaille beaucoup sur la communication pour le changement de comportement. Pas seulement communiquer pour communiquer, mais qu'on mesure à quel point les gens intègrent ce changement-là. Et vous voyez, dans tous les pays où on commence à avoir une déplétion de la pandémie, c'est aussi une question de communication, mais de discipline de la population, et qu'il faut augmenter aussi, je pense, avec le renforcement des mesures de sécurité pour punir ceux qui ne veulent pas.
À Kinshasa, on parle de confinement. Au Nord Kivu, on parle de l'isolement. Quelle est la différence entre les deux concepts?
Bon, en fait, étymologiquement, il y a vraiment pas de différence. Ok, le confinement, comme je l'avais dit, c'est juste que vous diminuez les mouvements. D'accord. Donc, on confine, on diminue les mouvements, comme je vous l'avais expliqué l'autre fois. On évite que les virus puissent circuler. D'accord. On diminue les mouvements parce que le virus circule avec les personnes. Oui. D'accord. Mais on donne un contenu à ce confinement. Tout dépend de ce que vous donnez dans le contenu, ce que vous appelez isolement ou confinement. Et je venais de vous donner les objectifs qui étaient assignés lorsqu'on a fait le confinement. Et je crois que pour ceux qui parlent de l'isolement, toute la question, c'est quel est le contenu que vous donnez à l'isolement. Il faut pas isoler les gens pour les isoler, mais il faudra justement dire, pendant qu'on isole les gens, voilà ce que nous allons faire comme mesures de santé publique pour éviter justement la propagation. Je crois que c'est ce qui est très important à retenir. Mais pour les deux cas d'espèce, c'est vraiment la limitation des mouvements. Et assurer qu'il y a des contrôles sanitaires qui se font selon les règles édictées en la matière.
On va accueillir trois auditeurs qui sont déjà en ligne. Delphine Tumba de Lubumbashi, Moïse Mukuna de Demba et Chico de Kinshasa. Delphine Tumba, bonjour. Delphine Tumba.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, monsieur le journaliste.
Bienvenue, quelle est votre question?
Merci, monsieur le journaliste, pour la première fois de participer dans votre
émission. Bienvenue, Delphine. Alors, quelle est votre question par rapport au sujet du jour?
Oui, voici ma question. Ma question est, pourquoi ici à Lubumbashi,
il n'y a pas de confinement?
Pas le règle d'hygiène. Affirmatif.
Pourquoi à Lubumbashi, les gens ne respectent pas les
règles d'hygiène?
Les règles d'hygiène, les mesures barrières.
Ouais.
D'accord, merci. Moïse Mukuna de Demba. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour à l'invité, à tous les auditeurs de la radio Kapi.
On vous écoute, Moïse.
Monsieur Jeudi, en tout cas, à mon humble avis, je vois que le confinement de la ville de la commune de la Gombe est tellement négatif. Pourquoi? Parce que Gombe, nous voyons que c'est la seule commune où les cas de contamination évoluent à grande échelle. Et aussi, nous voyons aussi que c'est comme si dans cette commune-là, il y a des cas suspects ou quoi, nous ne savons pas. Et aussi, autre chose, j'ai des questions à poser à monsieur l'invité. La première question, c'est de savoir pourquoi ne pas confiner toute la ville de Kinshasa là? Et aussi la deuxième question, pourquoi ne pas aussi faire le test de masse dans chaque ménage des maisons de la ville de Kinshasa? Ce sont là mes deux questions que j'aimerais poser. Merci.
Merci. Chico, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Dodi. Bonjour aussi à l'invité.
Bienvenue, Chico. Bonjour, Chico, quelle est votre question?
Oui, je pense que, monsieur Dodi, je suis très content de l'intervention de votre invité. Le confinement de la ville de la commune de Gombe a permis à l'équipe de l'INRB de découvrir plusieurs cas dans cette commune, et surtout les gens qui ne voulaient pas se présenter.
Trente et un nouveaux cas.
Pardon?
Il y a 31, on a recensé 31 nouveaux cas.
Effectivement, c'est ça que j'ai dit, qu'il y a des gens qui ne voulaient pas se présenter quand l'INRB était en train de demander.
Oui.
Non seulement que ce confinement a permis à l'équipe de l'INRB de découvrir, ce confinement a permis aussi à faire les dépistages dans cette commune. Mais mon inquiétude est celle de savoir, M. Dodi, selon les médias, le nombre de cas détectés et le nombre de décès donnés par l'INRB ne s'est fait qu'augmenter par rapport au nombre de guéris. Parce que si vous suivez aujourd'hui, dans d'autres pays, il y a quand même une bonne évolution. On donne peut-être 400 cas, mais il y a 200 guéris. Mais cela ne se fait pas chez nous. Comment maintenant la population peut-elle ministère s'est rassuré que avec le confinement, c'est possible et c'est là, que cette pandémie soit bien maîtrisée dans les jours à venir pour ne pas peut-être dire mettre un terme.
Merci Chico de Kinshasa. Yolande Bagunda, vous êtes dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Oui, mon intervention, je suis en train de parler au fait de l'importance du confinement de la Gombe justement. Qui est ou qui était, je ne sais pas si les mesures ont été déjà levées, très capital pour les habitants de la Gombe, et d'ailleurs, parce qu'il faut reconnaître que presque tous les travailleurs de domicile, tels que ménagères, nettoyeurs, jardiniers et les autres, c'est des gens qui prestent à Gombe, mais qui habitent en dehors de la Gombe. C'est un cercle vicieux, carrément, l'histoire du virus, parce que ça quitte Gombe et automatiquement ça va en dehors de la Gombe.
Oui.
Mais pour l'instant, par rapport aux mesures ou à l'intervention d'avant-hier et hier de monsieur le gouverneur, monsieur le responsable de la police, on a parlé de déconfinement progressif, tout en gardant les mesures des barrières, qui est vraiment très très importante. Mais je me dis, lorsque le responsable de la police il dit que non, on va continuer à présenter les macarons avant d'entrer dans une alimentation à une banque. Mais déjà, les macarons, ce n'est pas un truc que tout le monde avait au préalable. Donc, comment on va accéder à ces alimentations? Les macarons, on les aura où? Ça sera quelle opération on va faire? C'est comme si je continuais à rester chez moi parce que je n'avais pas de macarons au préalable.
Tout à fait.
Et alors, je veux faire comment si on déconfine progressivement et je n'ai pas le feu vert, en fait, d'accéder dans le supermarché. Je veux faire comment pour l'instant? En fait, c'est ça le grand souci. Mais il faut reconnaître ça, qu'on le dise ou pas. Le virus n'est pas que la Gombe, comme ça a été ciblé au préalable. Les travailleurs peuvent quitter Gombe et aller en dehors de la Gombe et ça crée une propagation permanente. Ça veut dire qu'à un niveau, on doit essayer de changer les mesures et je sais qu'à votre niveau, quand même, vous avez l'opportunité un peu facile d'accéder à l'équipe de riposte et oui. vous en connaissez plus que moi. Donc, pour l'instant, c'est savoir comment on va accéder à ces banques, à ces supermarchés, sans les macarons, s'il vous plaît.
D'accord. Merci Yolande Bagunda de Kinshasa. Maître Gaston, vous êtes à Idiofa, bonjour.
Bonjour, jeudi.
On vous écoute.
Bon, vous savez que je ne sais plus monter à Kinshasa parce qu'on a décidé que je ne puisse plus, jouer mon droit d'aller et venir. Hein.
Vraiment,
on est préjudicié quant à ça. Je ne vois pas l'importance de cette mesure si les gens ne pouvaient plus marcher. Vous savez que ça, c'est un droit constitutionnel.
De marcher.
Comment? Oui, nous devons sillonner sur toute l'étendue de la République
même
librement. Comment une personne peut venir pour une mission à
Idiofa? Même en temps de guerre, on va demander.
Parce que, voyez un peu, hein.
Alors, oui, quelle est la question? Maître Gaston, c'est quoi la question que vous adressez au docteur Mouboudi?
Oui, bon, ma première question, est celle de savoir, est-ce qu'il ne pense pas que, bien que ça évite la propagation de la maladie qui se transmet de l'homme à l'homme, il ne pense pas que cette mesure aussi a créé la méfiance hein, dans les chefs de plusieurs ménages, dans les chefs de plusieurs familles, hein, surtout à Kinshasa, où tout le monde qui n'habite pas votre famille, qui n'a
voilà, merci. Désolé, il y a une coupure.
Qu'il voulait demander de venir à Kinshasa, donc.
voilà, peut-être maintenant il ne sait plus le faire.
Ben, désolé.
Docteur Michel, vous avez la parole.
Rapidement, hein, je vous dis merci beaucoup aux auditeurs. Delphin, Moïse, Chico, Yolande et Maître Gaston, malheureusement qui n'a pas fini son intervention. Alors, Delphin, pour le Haut-Katanga, moi le message que je veux vous envoyer sous Lubumbashi, c'est que il faut pas prendre à la légère les mesures barrières. Je pense que c'est pas à moi de vous dire pourquoi les gens ne respectent pas. Je l'avais déjà mentionné ici, il faut de la discipline et de la bonne gouvernance si on veut réussir. Le chef de l'État avait donné son message, il avait relayé un certain nombre de mesures à respecter. C'est à nous de les suivre. Je pense que si nous ne pouvons pas être disciplinés, nous n'allons pas réussir. Donc ici, j'en appelle justement à toutes les autorités qui sont dans le Haut-Katanga, de veiller à ce que les mesures soient respectées. Et encore une fois de plus, aujourd'hui, je suis content parce que on sent quand même que les provinces se préparent très bien. Ok, on n'a pas trop de provinces qui sont affectées. Et même là où il y a eu des cas, on ne voit pas des évolutions inquiétantes. En tout cas, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on vraiment il faut protéger ça et préparer davantage ces provinces à pouvoir rester dans ce profil intact. Donc, encore une fois de plus, j'en appelle à la conscience des uns des autres pour être disciplinés par rapport à ces mesures. Alors, Moïse, je crois que tu as raison. Quand vous parlez de confiner tout Kinshasa, notez deux petites choses. La première des choses, c'est que le confinement a un coût. Donc, c'est très important que vous compreniez que nous sommes ici dans un pays, dans une ville où les gens vivent au jour le jour. Donc, quand vous confinez tout Kinshasa, mettez-vous en tête de ce qui va se passer en termes d'impact socio-économique. Donc, si justement, vous n'avez pas les moyens pour pouvoir apporter de la nourriture, apporter de l'eau, apporter des denrées de base aux populations, mais vous allez créer des morts, non pas de Covid-19, mais des morts liées à autre chose. Donc, ça doit s'étudier.
Kinshasa, c'est 15 millions d'habitants.
Voilà. Et ça doit se préparer. Je peux vous donner juste un chiffre. Exactement. Une étude montre que s'il faut confiner tout Kinshasa, le coût à supporter l'alimentation de toute la population irait entre 40 et 50 millions de dollars par semaine. Donc c'est trop d'argent qu'on n'a pas actuellement. Donc c'est comme ça que justement il faut y aller par étape. Donc si on a pris Gombe, c'est parce que Gombe était vraiment le centre chaud.
L'épicentre.
Mais cela ne veut pas dire qu'on laisse les autres communes, qu'on laisse les autres zones de santé. Et donc c'est pour revenir un peu sur la question des tests de masse. Justement, c'est une très bonne approche. Et je l'ai mentionné. D'abord, premièrement, il faut mobiliser les moyens pour avoir suffisamment de tests pour examiner tout le monde. Deuxièmement, ce qu'il faudra, se rendre compte que lorsque vous faites des tests de masse, il faudra justement avoir un test rapide. Et là, il y a des discussions qui avancent très vite pour pouvoir trouver un test rapide qui peut permettre de faire des examens de masse. Alors, par rapport à Chico, je crois que la grande question qu'il a posée, c'était pourquoi beaucoup de décès. Et justement, ça m'inquiète aussi, ça nous inquiète.
Pas assez de guéris.
Pas assez de guéris. Alors, sur la question des guéris, je dis, il faut quand même avouer qu'il y a beaucoup de malades qui ont évolué très bien cliniquement, donc qui ont présenté vraiment une disparition des signes cliniques. Mais pour l'OMS, quand vous avez une résolution des signes cliniques, vous devez passer à deux tests de négativité. Vous passez un premier test, parce que vous pouvez être guéri cliniquement, mais vous avez encore les virus au niveau de la gorge, vous pouvez le transmettre.
Il faut
un deuxième test. Et donc ça fait qu'on a quand même, on attend ces tests-là. Je crois qu'on aura suffisamment des personnes qui vont sortir, parce que cliniquement, elles vont bien. Mais aussi, sur la partie décès. Alors, on a fait la revue des décès. Moi, personnellement, j'ai demandé qu'on fasse un peu la revue des décès pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, quelle est l'information que je peux donner?
Plus de 25 cas.
Voilà, on est déjà, je pense que pour les statistiques d'aujourd'hui, on est déjà 25 décès. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte, je vous dis, que plus de 2/3 des personnes qui meurent en moins de 24 heures à 48 heures en arrivant à l'hôpital. En fait, vous arrivez à l'hôpital, vous mourrez en moins de 24 heures. Votre arrivée.
Donc les gens arrivent déjà dans une situation
de détresse. On peut dire les gens arrivent déjà morts. OK? Ça c'est le premier constat. Quand j'ai regardé, je me suis rendu compte en fait les gens vont à l'hôpital pour mourir. C'est ça la vérité. Ils arrivent vraiment au stade terminal, mais il y a une raison derrière ça. Ça peut être d'abord que les gens font de l'automédication. Voilà, je suis malade, je reste à la maison,
je me fais soigner. Ils prennent les médicaments.
Voilà. Deuxièmement, il faut comprendre que plutôt on dépiste la maladie, on vous met sous traitement, vous avez beaucoup plus de chances de guérir.
Donc je pense qu'il y a aussi une méfiance, les gens n'ont pas confiance aux structures mises en place pour la quarantaine. On a vu à l'hôpital du cinquantenaire
ce qui s'est passé. Je suis d'accord justement qu'il faut travailler sur l'image des structures qui prennent en charge. Donc moi j'avais condamné fortement ce qui s'est passé à l'hôpital. Donc il faut justement que les gens ne pensent pas que le Covid-19 est une maladie stigmatisante. Et là aussi, la population a un comportement à mettre en place. Il faut éviter justement ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un est malade ou lorsque quelqu'un vient de perdre un être cher de Covid, vous voyez que les gens, ça devient un sujet de rigolade, un sujet de théâtre. Donc il faut éviter ça parce que le retour sur les autres, c'est de dire « Ah, si on apprend, je suis stigmatisé, je suis chassé, je suis ».
Voilà.
Donc ça, c'est très important. Mais de l'autre côté aussi, il faut que les gens comprennent que il est très important par rapport à la prise en charge de se rendre compte que si nous travaillons sur le recours précoce aux soins, nous allons y arriver. D'accord? Il faut que les gens viennent plus tôt aux soins et prennent des médicaments. Nous avons déjà un protocole qui est validé et on pourrait drastiquement diminuer, n'est-ce pas, les décès que nous avons aujourd'hui. Donc quoi qu'on déplore aujourd'hui 25 décès.
Vous allez arriver dans des structures où les médecins ne veulent pas vous toucher, il n'y a pas de respirateur, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien,
Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que tu as raison qu'il y a une bonne partie des cas graves qui arrivent. Mais La vérité, c'est qu'avec les capacités techniques aujourd'hui en termes d'équipement et tout, je l'avais dit l'autre fois, on est un pays qui n'a pas beaucoup investi dans l'offre des services de santé de qualité. Ok, c'est une réalité triste, mais c'est la vérité. Il faut justement qu'après cette épidémie, qu'on commence à investir beaucoup dans le système de santé. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, moi, je voudrais que dans cette situation qui est là, cette réalité, qu'on agisse en amont. Agir en amont veut dire sensibiliser les gens, ok? À très vite, lorsque vous avez des signes de suspicion, vous allez vous faire dépister, vous pouvez prendre le traitement, ok? Attends. Mais aussi, que les gens ne traînent pas en faisant de l'automédication, en tripotant, comme je vous ai mentionné. En fait, les gens vraiment se pointent à l'hôpital au moment où les capacités actuelles ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Je crois que si on fait ça, on pourra aller de l'avant. Mais je pense que c'est une question qu'on doit prendre au sérieux. On doit beaucoup y travailler, notamment sur la sensibilisation, les comportements de la population vis-à-vis des personnes qui sont malades, mais aussi, je crois, d'accord avec toi, qu'il faut travailler sur la qualité des services au niveau des institutions de soins. Alors, Madame Hollande a posé une très bonne question sur les cas qui sont à la Gombe.
Donc,
mais
le confinement de la Gombe continue.
Oui, le confinement continue, mais comme on a dit, on peut dire de manière atténuée. Mais ce qu'elle doit comprendre, c'est que justement, quand on a visité les ménages là où il y avait des cas, ok, le listage a pris en compte les personnes qui viennent des autres communes mais qui travaillent dans ces ménages. Par exemple, aujourd'hui, on vient chez toi, aujourd'hui, tu es malade, on va te demander qui, parce que ton domestique ne travaille pas là-bas, ton chauffeur, et ainsi de suite. Et les équipes, justement, se déploient en dehors de la Gombe pour aller
suivre ces cas-là.
Exactement. Donc, quand on parle du suivi des contacts, je l'ai mentionné, c'est des suivis des contacts sur l'ensemble de la province. D'accord? C'est ça qui est en train de se faire. J'ai mentionné le défi qui est qui est actuel, en fait, qui est le nôtre, qui, en fait, on est à 70% de suivi de contacts, mais il faut augmenter. Donc, il faudra qu'on comprenne que quand on parle de Gombe, c'est pas que on s'arrête à Gombe, mais si vous avez un chauffeur qui habite Massina, ben, on va justement faire le suivi de ce contact qui habite Massina. Donc, ça, c'est très important. Alors, la question de Macaron, malheureusement, habilité à répondre. À la place
les
de commandant de la police.
Ouvrent déjà aujourd'hui les supermarchés. Et les aujourd'hui ou demain?
En fait, les mesures commenceraient aujourd'hui.
Aujourd'hui même.
Exactement. Alors. Mais alors là, sur les macarons,
avec toute modestie. Pour accéder au supermarché et aux banques, il faut des macarons.
Alors, avec toute modestie, je dis, je ne peux pas répondre à la place du commandant de la police. Je note la question et on va essayer de l'envoyer à qui de droit. Je suis d'accord avec vous que ça va être une limite. D'accord. Maintenant, est-ce que l'hôtel des villes prévoit-il des mécanismes pour essayer de donner des macarons à ceux qui en ont besoin? Je crois que c'est une question qu'on peut clarifier, mais je ne peux pas, n'est-ce pas ma qualité, parler à la place de la police. Alors, Maître Gaston, je pense qu'il a le souci de revenir voir probablement sa famille à Kinshasa.
Oui.
Et je suis d'accord avec lui, je m'imagine bien quand on est loin des siens, comment ça fasse. Mais Maître, je crois qu'on est en situation de guerre, ok? Et donc, le fait de limiter les déplacements, c'est vrai que vous voyez ça en termes d'infraction, mais voyez aussi ça en termes de protection, à la fois pour vous-même, mais aussi pour toute la communauté.
Bien, docteur, on va faire un tour à Kananga, où notre confrère Joël Boufengo s'est rendu dernièrement au marché central de la ville. Et d'après lui, les commerçants, les gens ne respectent presque pas les mesures d'hygiène, des confinements et des distanciations sociales. Voilà, c'est loin d'être respecté. Suivez ce reportage.
Okapi Service. À Kinshasa, en province et à travers le pays, découvrez vos problèmes grâce au reportage service. Okapi.
Voilà, désolé, c'est pas l'élément demandé. On va se rendre, ça c'était un élément de Mbandaka qu'on a diffusé dernièrement. Nous allons plutôt aller à Kananga où Joël Boufengo a produit un reportage au marché central de la ville.
C'est avec ces mots qu'une revendeuse de poissons frais nous répond quand nous lui demandons si elle respecte les mesures d'hygiène et des distanciations sociales. Elle s'en remet à Dieu sur qui elle dit compter pour que cette pandémie n'atteigne pas le Kasaï. En sillonnant les allées encombrées du marché, rien ne laisse penser que le coronavirus est pris au sérieux dans ce lieu de commerce. La partie du marché où la friperie est proposée est aussi bondée que d'habitude. Par groupe de 5 ou de 10, les clients marchandent nez à nez avec les revendeurs qui rivalisent d'ingéniosité pour vanter à gorge déployée la qualité et le prix des pantalons, chemises, blouses et t-shirts jetés par terre. Si commerçants et consommateurs semblent avoir fait l'impasse sur la distanciation sociale, qu'en est-il du lavage des mains? Un agent trouvé dans le bureau de l'administrateur du marché fait savoir que 8 dispositifs de lavage de mains ont été placés aux entrées principales et devant les installations hygiéniques. Sur les 4 dispositifs que nous avons vus, 3 ne disposaient pas de savon, le 4e ne disposait pas des seaux d'eau. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
Merci Joël Bofengo pour ce reportage sur la situation dans la ville. Alors, docteur Michel, nous avons une réaction sur Facebook de Luc Kabunda, qui nous écrit depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le confinement, il dit ceci, le confinement de la Gombe est une bonne mesure attendue pour limiter la propagation de la pandémie dans les autres communes de Kinshasa et les restes du pays. Mais le bilan reste cumulatif et la RDC a franchi la barre des 300 cas avec une moyenne d'au moins 15 cas par jour. Chose qui laisse à craindre le pire. Docteur Michel.
Alors, l'augmentation des cas. Ok, parlons-en. Je pense que
15 cas par jour.
Oui.
Ouais, je sais pas où est-ce qu'il a eu ces.
Si. Ben, si je te dis, pour moi, hein, je dis deux points. Donc, premier point, c'est que pour moi, si on augmente le dépistage, ok, et si la maladie était là, on devrait augmenter le nombre de cas. D'ailleurs, il y a des gens qui disent même que non, mais attention, est-ce qu'en RDC, vous ne sous-estimez pas vos nombres de cas? Voyez? Et ça, c'est dangereux parce que si justement on sous-estime et qu'il y a des cas qui se promènent, le danger, c'est qu'en fait, il y a une infection à bas bruit qui risque d'exploser un jour. D'accord? Donc, au plus on dépiste, on a beaucoup de cas. Et c'est bien. Ça veut dire, quelque part, c'est bien. D'accord? Parce que, prenez les cas. On a confiné Gombe. En très peu de temps, on sort plus de 30 cas. Vous comprenez? Imaginez-vous si on l'avait pas fait. Ça veut dire que ces cas allaient engendrer d'autres. Et vous imaginez là où on allait partir. Mmh. Pour moi, je suis heureux lorsque je vois qu'on sorte le plus grand nombre de cas. Dans le souci justement de les traiter, de les isoler, d'éviter la propagation, que de les laisser continuer leur chemin. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, maintenant, si on sort le plus grand nombre de cas chaque jour, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a une contamination qui existe. Alors, pour réduire.
Est-ce qu'il y a 15 contaminations par jour, 15
non,
cas par jour?
Non. Je crois que si vous prenez une moyenne, on est même au-delà. Donc, souvent, les derniers chiffres, on dépasse même les 15 par jour, hein. Vous allez voir qu'on a une moyenne de 20 par jour. En tout cas, regardez les tout derniers chiffres. Mmh. Mais, moi, je pense que si on augmente les alertes, ok? Si on augmente le suivi des contacts, c'est possible qu'on soit au-delà de ce chiffre-là. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, si on a le plus grand nombre de cas et qu'on agisse de manière drastique sur les mesures barrières, vous comprenez que on va commencer une dépression. D'accord? Dans tous les pays, vous avez vu ce qu'on appelle le pic épidémique. En fait, au début, on augmente le dépistage, vous augmentez un nombre de cas. À un moment donné, vous vous rendez compte que votre système de surveillance marche très bien. Qu'est-ce qui se passe? La dépression commence. Jusqu'à ce que finalement, vous allez avoir un nombre limité de cas. Mmh. Et je crois que pour le moment, si on intensifie le dépistage de masse, ok? Si on intensifie ce travail que nous faisons pendant le confinement, il est possible qu'on voit beaucoup de cas sortir, mais attention, si on a plus de cas, il faut les isoler, les traiter pour éviter que ces gens n'infectent d'autres. Oui. Notamment par des mesures, telles que je venais de vous les dire. D'accord?
Alors,
c'est important
Kinshasa,
que les gens comprennent ça. Et pour terminer avec le deuxième point, c'est justement comme je l'ai mentionné, il faudra que les mesures barrières soient respectées. Voilà, on vient de ce qui se passe à Kananga. Les amis de Lubumbashi disent la même chose. J'en appelle encore une fois de plus à la responsabilité de tout un chacun. Cette lutte, on doit la mener collectivement. Et je suis convaincu que si on va dans ce sens, il y a lieu justement de diminuer la propagation.
Alors, le gouvernement de la province de Kinshasa a annoncé le port obligatoire des masques à partir d'aujourd'hui. Mmh. C'est sur pas seulement la Gombe, c'est surtout sur l'ensemble de la ville de Kinshasa.
Oui.
Pourquoi,
hein? Regardez, c'est une mesure barrière, hein, le port de masque. Donc, c'est une des mesures barrières. Donc, ça veut dire
la plus efficace.
C'est efficace. La plus efficace. Je n'ai jamais personnellement fait une analyse. Je crois qu'on aura. Il faut dire que c'est la plus efficace. Il faut faire une analyse et comparer les chiffres, voir voilà quelle est la mesure la plus efficace. Mais c'est une des mesures très recommandées et qui a montré des succès dans beaucoup de pays. Regardez ce qui se passe ailleurs. Le port du masque, c'est obligatoire un peu. Nous, on était encore en train d'hésiter. Mais non. Je dis là-dessus, il faut épingler un point. Oui, port du masque obligatoire, mais il faut que les masques soient disponibles. D'accord? Et donc, c'est comme ça que moi, je suis en train d'encourager, par exemple, les gens qui utilisent les masques de fabrication locale avec des pagnes. Parce que on montre justement que ces masques jouent un rôle barrière. D'accord?
Et c'est réutilisable.
Et c'est réutilisable. Donc, et l'avantage qu'on a, c'est que si vous encouragez la fabrication locale, mais déjà, vous fortifiez l'économie locale. Vous pouvez injecter des capitaux sur une fabrication locale et ça permet aux gens d'avoir des ressources. Je vous parlerai plus tard un peu de ce qu'on voit déjà comme impact socio-économique de cette crise et comment on doit y remédier. Entre autres, c'est justement, par exemple, promouvoir la fabrication des masques au niveau local, promouvoir la fabrication des lave-mains au niveau local. Et ces injections financières vont permettre justement à ce que les gens aient des moyens pour survivre. D'accord? Et ça, c'est important. Maintenant, il faudra très rapidement passer à échelle pour qu'il y ait de la disponibilité. Et les masques importés, on pense qu'on peut réserver cela au personnel soignant. D'accord? Donc là, je crois que c'est déjà un élément important. Mais encore une fois de plus, je reviens à ce que j'ai dit. Une chose, c'est de donner des mesures. Une chose, c'est de recommander. Mais il faut suivre l'application. Ok? C'est là où j'en appelle aux collègues de la sécurité ou autres de veiller à ce que, quand on dit qu'il faut porter le masque, vous êtes sur la rue, ne vous faites pas corrompre avec 1000 francs, ne laissez pas quelqu'un passer si cette mesure n'est pas respectée, appliquez cela. Parce que autant vous laissez cette personne passer, autant vous-même vous vous exposez. Donc je crois que il y a une discipline, je reviens sur le mot discipline, je ne sais pas si j'en trouverai un autre, mais pour moi, il y a une discipline que nous devons adopter et nous devons faire en sorte qu'on respecte les mesures qui sont édictées par les autorités. Et ça, c'est notre rôle aussi dans cette riposte.
Quel est l'impact des mesures de confinement dans la lutte contre le Covid-19? Glody Bouanganga de Bandundouville, Kachai, vous êtes à Kanioka et Safari nous appelle depuis Iga Barrière. Glody Bouanganga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody, bonjour à TL, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent à ce moment.
Bienvenue. Glody, quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée, messieurs les journalistes. Je pense bien que les décisions du coronavirus, c'est ce que le président de la République a pu décider. Il y a certaines mesures qui ne sont pas respectées ici dans la ville de Bandung. Vous allez se rendre compte qu'à l'instant où je vous parle, nous sommes à une mesure de confinement, nous sommes à la maison. Mais les agents de la SNEL et de la régie des eaux passent dans des ménages pour faire la coupure de l'eau et de l'électricité. Ouais, c'est anormal et inacceptable.
Non,
et on a essayé de poser la question de savoir pourquoi cette coupure? Non, nous ne sommes pas notifiés par les directions nationales. Il faut que la direction nationale puisse faire quelque chose pour les directions provinciales. Bon, là, on met ça d'abord en parenthèse. Je pose juste une seule question à monsieur l'invité. Qui est censé de confirmer les cas du coronavirus? Parce qu'il y a beaucoup de radios trottoirs. On a eu suivi récemment ici dans la ville de Bandundu. Où deux personnes sont infectées de coronavirus. Et on a envoyé les tests à Kinshasa. Une RBA a dit que Il n'y a pas le coronavirus à Bandung. C'est censé de confirmer les cas du coronavirus. Parce qu'on veut bien, ça va. Parce que vous allez se rendre compte que dans les différents réseaux sociaux, il n'y a pas de publication. C'est monsieur à télé.
Merci, Glody Kachai de Kanioka. Bonjour.
Bonjour, monsieur José Daniel Kachama. Et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour, Daniel.
Merci beaucoup, monsieur
Kachai.
Comme vous avez suivi les reportages de Joël Bofeng, monsieur Jody à Kanioka, vraiment, c'est comme si que le corona n'a pas encore existé au Congo. Parce que en dehors des églises qui sont fermées, les écoles et les universités, les restaurants et les bars, monsieur, les gens ne savent pas qu'il faut respecter d'autres mesures préventives telles que dictées par les autorités nationales.
Kachai, pour les bars, par exemple, il a été constaté à Kinshasa que les gens fonctionnent, que les bars continuent de fonctionner, mais d'une autre manière, dans les parcelles, dans les salons. Donc, on joue pas de la musique sans trace, mais les gens sont à l'intérieur en train de boire.
Mais nous ne voulons pas entrer en détail de tout ça, monsieur Jody, parce que si nous entrons en détail, même ici à Kanioka, je peux vous dire, même dans l'indiscrétion des choses qui se passent, vous voyez, vous arrivez devant un bar, la porte est toujours fermée, mais il y a quelqu'un à la porte qui vous appelle avec la main. Il vous dit, si vous voulez entrer, vous entrez, je ferme la porte. Alors, nous ne voulons pas décrier tout ça, mais c'est ce qui se passe. Ce qui devrait être fait, c'est encourager, doter la police de toutes les provinces de moyens techniques, matériels, financiers, pouvant leur permettre à exécuter normalement les décisions prises par les autorités. À cela, maintenant, j'ai deux petites questions à poser à l'invité. Monsieur Jody, quelle est la différence que l'invité peut bien établir? Parce que j'ai suivi, on parle de confinement, on parle de ça, mais je ne sais pas comprendre ces termes ici. Confinement, quarantaine, isolement. Bon, ce sont des termes qui se rapprochent dans leur compréhension. Il y a quoi au juste? Deuxièmement, c'est la dernière question, monsieur, je dis, c'est pour savoir. Parce que qu'est-ce qui fait que ici chez nous, nous n'avons pas beaucoup de cas. par rapport à d'autres pays africains. Mais nous nous montons en puissance avec les morts. Nous montons en puissance avec les morts. Au Cameroun, tout comme au Sénégal, on vous parle de 600 quelques, 800 cas, mais 9 morts, 8 morts. Au Congo, quand on est encore à 221 cas, 20 morts, 22 morts. Qu'est-ce qui fait que le comité là de suivi de la riposte à coronavirus ne puisse pas aussi mettre des stratégies normales pour barricader la route contre les morts et aussi chercher à ce que les gens puissent être guéris de cette maladie-là. Merci beaucoup.
Merci Kachai. Safari, vous êtes à Iga Barrière. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à monsieur l'invité du jour. Hein.
Quelle est votre question, Safari?
Je voulais noter une chose, monsieur. Quand je regarde bien, les bilans sont vraiment négatifs compte tenu de ce confinement qui avait commencé, je ne sais pas, en mars et là-bas jusqu'aujourd'hui, avril, je ne vois pas un bilan positif. Donc, les bilans restent négatifs. J'aimerais poser une question à monsieur l'invité. Les pays de Chine, les pays d'Asie, je ne sais pas, la Chine là-bas, quel pays encore, qui enregistre à ces jours ici moins de cas de contamination. J'aimerais savoir, est-ce que c'est à cause de ce confinement qu'il y a eu la réduction des cas, ou bien il y a autre chose qui a favorisé la diminution plutôt de contamination. Voilà, c'est ma question.
Merci. Albert Kotolo d'Mbandaka, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité.
Bienvenue. Bonjour. Quelle est votre question, Albert?
Ouais, ma question est la suivante, monsieur le journaliste. Vraiment, le sujet est très, très intéressant dans le sens que ça contribue à la conjoncture de notre pays. Même. Je m'étonne, mais monsieur l'invité qui me dit que l'avantage du confinement dans la commune de Gombe, c'est que actuellement nous avons moins de cas par rapport à ce qui était auparavant.
Non,
et moi, je regrette dans le sens que.
Il n'a pas. Docteur Michel a dit qu'il n'a pas dit ça.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Ouais, d'accord. Vous allez répondre tout à l'heure.
La plupart des cas ont été détectés avant. La plupart des cas ont été détectés avant dans la commune du Congo. Mais présentement, il y a toujours augmentation des cas dans la ville province de Kinshasa. Mais au juste, quel est vraiment le rôle du confinement dans la commune du Congo? C'est ça ma préoccupation.
Merci Albert. Docteur Michel.
Oui. Ok, merci Jody. Donc je pense que peut-être que je vais revenir sur un certain nombre de points pour clarifier mon ami Albert. Merci à Glody, merci à Kachai. J'espère que c'est pas un chinois.
Voilà.
Bonjour Kachai et merci à Safari. Voilà. Oui. Donc pour Glody, encore une fois de plus, merci beaucoup parce que c'est la deuxième fois qu'il participe à cette émission. Je pense que je l'avais mentionné, il faut justement continuer à sensibiliser les autorités sous le respect des mesures. Ok, bon, voilà, les gens de la SNEL vont couper l'eau, le courant durant cette période. J'ai même appris de quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que voilà, on est en train de demander qu'ils puissent déménager durant cette période. Donc encore une fois de plus, c'est là où j'apprécie beaucoup le travail que fait la Radio Capi, de sensibiliser et de dire aux gens, écoutez, lorsqu'on met les mesures en place, il faut les respecter. Mmh. Il faut qu'on continue justement à marteler sur ça, je dis. Donc continuons, et moi je me dédie de temps en temps à la Radio Capi, c'est pas pour un plaisir, mais c'est justement pour revenir sur les messages qui sont donnés, parce que si on les respecte pas, nous n'allons pas avancer. Donc ça c'est vraiment un élément important qu'il faut mettre en tête. Donc, Glody, je pense qu'il faudra saisir les autorités compétentes au niveau du Kwilu et montrer cela et que cela soit suivi pour le bien-être de tous. Alors, sur la question des décès, je crois que notre ami est revenu dessus. Pourquoi il y a tant de décès? J'ai abordé cette question parce que je crois que notre ami Chico l'avait posé. Je crois que il faut absolument travailler sur le recours aux soins précoces. Je vous ai donné l'illustration de quand est-ce que les gens arrivent à l'hôpital et quand est-ce que les gens meurent. Donc les gens arrivent tardivement et dans des hôpitaux avec un plateau technique très faible, donc ça devient très très difficile. Et aussi, je pense qu'il faudra déstigmatiser la maladie. Il faut pas que les gens pensent que voilà, quand j'ai le Covid, il faut que je me cache, que je me tripote à la maison pour pouvoir trouver des solutions. Donc je crois qu'il y a tout un changement de comportement. D'une part, mais d'autre part, je suis tout à fait d'accord aussi qu'il faut améliorer, n'est-ce pas, la prise en charge dans certains hôpitaux. Et là-dessus, on aura l'occasion d'en parler. Alors, sur les termes confinement, quarantaine, isolement, oui. Si vous lisez même la Rousse, vous lisez les terminologies, vous allez vous rendre compte, en fait, ces mots se recoupent, ok? Vous allez voir, par exemple, que le confinement, on dit c'est l'ensemble des mesures qui sont prises pour éviter la contamination. La quarantaine, c'est aussi isoler des personnes. OK, dans un contexte donné pour éviter une contamination. Encore une fois de plus, dans tous les deux mots, l'isolement arrive. OK? Moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que qu'on parle de déconfinement, qu'on parle de quarantaine, qu'on parle d'isolement. L'idée est d'éviter la propagation, mais de mettre en place des mécanismes qui réduisent la transmission de la maladie, ok? Sur la décontamination, des mesures sur la détection précoce, la communication, ainsi de suite. Donc ça, c'est très important à comprendre, mais il y a beaucoup de recoupements que vous pouvez retrouver à travers ces mots. Alors, Safari, je pense que lorsque vous voyez dans d'autres pays une déplétion du nombre de cas, regardez ce qui s'est passé avant. D'abord, premièrement, c'est qu'en fait, les pays ont mis en place des mécanismes de lutte, principalement de santé publique, ok? Et c'est ce qu'on est en train de vous dire, les mesures barrières, les dépistages des masses, ainsi de suite. Ok, ça va éventuellement nous permettre de détecter le plus grand nombre de cas, ce qui fait qu'on va monter. Mais à un moment donné, si on a détecté le plus grand nombre de cas, qu'on a isolé ces cas détectés et on évite la propagation en utilisant les mesures barrières, on va atteindre ce qu'on appelle le pic épidémique et justement nous allons commencer la diminution. Donc c'est ça qu'on veut. On voudrait pas que les gens soient distraits et je suis très content de voir que vous participez de loin en pointant du doigt ces défaillances au niveau des provinces. Et là, j'en appelle justement aux autorités provinciales de prendre ces mesures à bras le corps et de respecter leur application. J'insiste, pas seulement de dire on a dit, mais de veiller sur la rue, de veiller dans les ménages, quand justement les gens sont en train de respecter cela. Alors Albert, je crois que peut-être que tu as pris l'émission en retard. J'ai donné quelques statistiques sur le confinement de la Gombe. Et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on peut faire mieux. Donc si vous regardez la plupart des taux, que ce soit en termes de désinfection, en termes de nombre de cas qu'on a eu, en termes d'alerte qu'on a eu, je crois qu'il y a moyen de faire encore plus. Même en termes de ménages visités.
Quelqu'un a dit que le bilan est totalement négatif.
Non, il n'est pas négatif, mais il n'est pas aussi satisfaisant qu'on le pense. C'est comme ça qu'on continue le travail. Donc je pense qu'il ne faudra pas dire que voilà, ça y est, on croise les bras, on se frotte les mains. Non. Il y a encore beaucoup de gaps à combler, notamment sur les ménages à visiter, notamment sur les alertes, notamment sur la sensibilisation à travers les rues, ainsi de suite. Donc, je crois que on continue et tu pourrais prendre mon numéro et je pourrais te donner de plus amples détails. Donc, mais là, c'est important. Mais ce qu'il faut comprendre sur le confinement de la Gombe, les gens ont cru croire que parce qu'on parle de la Gombe ailleurs, tout va mieux. Non, il faudra qu'on garde l'œil sur les autres communes de la ville province de Kinshasa. Et ça, c'est très important, je dis.
Tout en renforçant les barrières,
on regarde qu'est-ce qui se passe dans d'autres communes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je crois que c'est Yolande qui l'a mentionné, je l'ai mentionné lors des émissions passées, c'est qu'en fait, vous pouvez vous infecter à la Gombe, mais vous ne restez pas forcément à la Gombe. Donc, c'est très important que, lorsqu'on fait le listage, que ce soit un listage exhaustif qui va permettre à ce qu'on suive un monsieur qui s'est infecté à partir de son patron qui est à la Gombe, mais lui habite Mongafula. Donc, il faut aller là-bas, essayer de s'assurer que lui, à son tour, n'a pas infecté sa femme, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Donc, c'est ce qu'on est en train de suivre. Donc, je crois que, il faut encourager les équipes à aller dans ce sens, mais aussi, il faut leur donner les moyens, suffisants, notamment sur tout ce qui est investigation des alertes, tout ce qui est suivi des contacts, parce que ça demande vraiment qu'il y ait des gens qui se déplacent, et surtout avec, cette période de pluie, il faut que les gens puissent avoir des imperméables. Les gens doivent avoir des cartables pour noter, il faut des réunions pour faire des compilations. Donc là-dessus, je crois que c'est très important de ne pas oublier ces éléments que je viens
de dire. Docteur Michel, alors pour terminer cet entretien avec vous, on va vous libérer dans quelques instants.
Merci beaucoup.
On a appris que dans la commune de la Gombe, les autorités ne respectent pas les mesures. Au niveau des barrières, tous les chauffeurs doivent s'arrêter. Là où il y a la police, il faut descendre, on vous prélève la température, vous lavez les mains, et ensuite vous montrer votre badge et puis vous pouvez partir.
Il y en a qui ne respectent pas.
Qui ne respectent pas?
Je dis, c'est ça la mauvaise gouvernance. Lorsque vous voulez chercher les exemples de mauvaise gouvernance, vous les avez. Vous venez d'en citer. J'insiste encore une fois de plus, il faut veiller à ça. Donc, autorité ou pas autorité, on ne peut pas violer des mesures qui ont été fixées, qui ont été mises en place par l'autorité compétente. D'accord? Et je crois que lorsque vous annoncez ça, il faut justement qu'on y veille. C'est très important. La bonne gouvernance, ok, les respects des mesures qu'on donne vont permettre à ce qu'on arrive à une fin de cette pandémie. C'est très important que les gens comprennent. D'autant plus que vous le savez, monsieur Joudi, il y a beaucoup de ces soi-disant autorités qui sont touchées. Il y a beaucoup de ces soi-disant VIP qui sont touchés. Il y a beaucoup de ces soi-disant les hommes ou les femmes riches qui sont touchés. Donc c'est une cible qui n'est pas épargnée. Et pour le COVID-19,
ils donnent pas les bons exemples.
Personne n'est épargné. Donc il faut justement pas faire ça. Donc, je crois que le chef de l'État l'a dit, les autorités provinciales l'ont dit. Faisons notre part, respectons ces mesures.
Bien.
Ok. Et oui. On sanctionne. Moi, je pense qu'il n'y a pas de redressement sans sanction. Sanction. Ben, que vous vous appeliez XY, lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas prescrit par la loi, on doit vous sanctionner. Mais je ne sais pas si vous me donnez deux minutes pour passer des petits messages.
Allez-y,
très rapidement.
Allez-y, docteur.
Alors, je voulais quand même, premièrement, ici, appeler tout le monde à l'espoir. Je sais qu'il y a des messages qui viennent, parfois, qui désengagent. Mais gardons l'espoir, chers amis. Gardons vraiment le courage. Et soyons disciplinés et participons à la lutte. Aujourd'hui, je pense que chacun de nous doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais. Ce que tu fais, Jody, tu donnes ta part dans la lutte contre le Covid-19 avec la radio Capi. Très important. Deuxièmement, j'apprends, ça c'est à vérifier, qu'il y a des vols cargo aujourd'hui qui commencent à voler avec des passagers en province. Si la nouvelle est vraie, il faut vraiment que les autorités puissent y veiller. Parce que si
les vols cargo, on commence à amener des gens.
J'ai appris. Quelqu'un m'a appelé que voilà, les vols cargo se transforment en vols passagers. Donc si c'est vrai, il faut qu'on se réveille là-dessus. D'autant plus qu'aujourd'hui, les provinces se débrouillent déjà assez bien. Mais il faut éviter qu'on augmente le nombre des provinces touchées. Donc c'est très important qu'on y veille. J'ai dit encore une fois de plus, il s'agit des rumeurs. Il faut qu'on les vérifie. Il faut que les autorités veillent que les cargos ne transportent pas les gens. Sinon, parce que si on dissémine encore une fois de plus le virus sur d'autres provinces, la situation devient difficile. Alors, sur les médicaments qui circulent, vous êtes au courant qu'il y a des gens qui montrent que voilà, j'ai trouvé un médicament contre le Covid. Là aussi, il faut faire attention. On encourage les recherches. C'est très bien. Mais quand vous avez un médicament, vous avez une recette qui soigne, il est important de l'amener, de montrer comment vous l'avez testé avant de pouvoir le faire circuler
comme
dans les réseaux sociaux.
D'accord.
Évidemment, je pense qu'il faudra beaucoup de soutien, aux personnes qui sont affectées, aux familles qui sont touchées. Il faut les soutenir moralement, spirituellement, pourquoi pas matériellement. Oui. Et surtout, respectons les mesures barrières de manière drastique, de manière profonde et sans exception aucune.
Bien, docteur Michel Mouvoudi, expert en santé publique et membre de l'équipe des ripostes contre coronavirus. Merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Jody.
Il est 11h à Kinshasa. Au Capi Service, deuxième partie de l'émission. Quel est l'impact des mesures de confinement dans la lutte contre le Covid-19? Je l'ai dit tout à l'heure à Kinshasa, la commune de la Gombe est sous le coup du confinement total depuis deux semaines. Les villes de Goma, Beni et Butembo sont dans l'isolement depuis 14 jours. Le confinement de la Gombe se poursuit, ainsi que l'isolement des villes du Nord Kivu précitées. Alors, quel bilan faire du confinement de la commune de la Gombe à Kinshasa et de l'isolement de Goma, Beni, Butembo dans la province du Nord Kivu? Nous avons reçu aujourd'hui Dr Michel Mouvoudi, qu'on a déjà remercié, mais parce qu'il y a beaucoup d'appels des auditeurs, on ne peut pas les laisser partir tout de suite. Donc nous les gardons
Je suis mis en confinement pour répondre aux questions des auditeurs.
Il est confiné dans ce studio pour répondre à vos préoccupations. Et nous allons également recevoir tout à l'heure Monsieur Moïse Kanyere-Kakoulé, le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu. Merci de votre fidélité à Okapi Service. Alors, directement, nous avons, on va accueillir les auditeurs. Moza, Jean-Paul Moza est à Arou, Kimoto nous appelle de Nyunzu et Marcelin de Kinshasa. Jean-Paul Moza, bonjour. Oui, Jean-Paul, quelle est votre question?
Je voudrais m'adresser à l'invité.
Oui.
Pourquoi qu'on ne peut pas organiser des dépistages volontaires concernant la maladie à coronavirus? Parce que il se pourrait qu'on ait en besoin de voyager pour aller quelque part. Maintenant, avec des mesures restreintes ici, on sera maintenant incapable de voyager. C'est question assez concrète, c'est quand même aux gens d'aller se faire des dépister volontairement dès qu'il y ait quand même un document émanant d'un docteur attestant qu'on est sain. Alors, c'était ça ma question. Et puis, je voudrais aussi poser la question concernant les affiches que nous avons amenées ici à Arou. Nous trouvons que les ports des casques ou des casques signés, on reste maintenant obligatoire. Et pourtant, on avait informé au public que le port des casques là ne concerne que nous si on est malade. Mais maintenant, on rend ça obligatoire. Pourquoi?
Oui.
Merci beaucoup.
Bien. Kimoto, vous êtes à Nyuzu, dans les Tanganyika. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, je salue aussi l'invité du jour. Je voudrais dire à l'invité que je m'adresse à lui et qu'il transmette mes préoccupations directement au gouvernement. Parce que nous avons des pays par exemple le Rwanda, où on a vu le ministre accepter de tout laisser pour la riposte contre le Covid-19. Mais aujourd'hui au Congo, que pensent tous les membres du gouvernement, les députés, les autres, pour lutter contre le Covid-19? La première question. Deuxième question. La ville de la Gombe et la commune de la Gombe est bien confinée. Le gouvernement venait de procéder par l'ouverture de certains marchés, de banques, tout consort. Et c'est là, pour que la population puisse s'y rendre, acheter les produits de première nécessité, ou c'est pour la distribution gratuite, comme le président Kagame l'a fait chez lui au Rwanda. Voilà mes deux préoccupations.
Bien, merci. Marcelin de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, j'ai dit.
Bienvenue, quelle est votre question?
Moi, ma préoccupation, je pense que je vais réfléchir avec notre invité.
Ok, j'aime bien ça.
Je voudrais savoir pourquoi on hésite longtemps, comme toujours, à collaborer avec la médecine traditionnelle dans cette approche contre les Covid-19. Parce que, vous savez, ailleurs, on essaye un peu de donner de la place à la médecine traditionnelle pourvu qu'on trouve des solutions. Je parle du cas de Madagascar. Et ensuite, deuxième élément, c'est que je constate aussi le médecin congolais, il soigne les malades congolais comme s'il était le délégué de l'OMS. Tout à l'heure, l'invité a dit, selon l'OMS, selon les exigences de l'OMS, nous ne sommes pas vraiment un État, je pense. Nous sommes en train d'exécuter les ordres de l'OMS. Et en ce sens, nous risquons de rester dans la rationalité rationnelle et éviter de prendre en compte notre propre situation, culturelle. Donc parfois, il faut aborder ce genre de questions avec deux approches. Parce que la médecine conventionnelle ou la médecine légale peut avoir ses limites. Et que la médecine, la thérapeutique traditionnelle peut venir aux rescousses. Mais ici, nous notons une certaine méfiance entre la médecine légale et la médecine traditionnelle. Et cette méfiance ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps qu'on vous parle, on dit voilà, les dosages, les problèmes de dosage, mais ces problèmes de dosage peuvent être réglés par la recherche. Alors, je ne comprends pas cela parce que si vous regardez bien l'approche de l'actuelle approche contre le Covid-19, c'est les confinements et la mise en quarantaine. Je vais vous donner un cas ici à Lemba, d'ailleurs, c'est deux, je vais donner un seul, où on a mis en quarantaine un immeuble, un hôtel d'ailleurs, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort de Covid-19 à l'intérieur. Et on a mis en quarantaine, après 14 jours, il n'y a eu aucun cas positif, testé positif. Et donc parfois, ce genre de méthodes ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que la population s'adonne déjà à la consommation des citoyens, des Congo, etc. Est-ce qu'on ne peut pas encadrer ce genre de pratiques? Après, évidemment,
D'accord. Recherches. Merci, Marcelin. On a compris. Pourquoi ne pas aussi collaborer avec la médecine traditionnelle. Merci. JR, vous êtes à Guémena. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Je ne suis pas à Guémena, c'est plutôt à Guadolité.
Voilà, vous êtes plutôt à Guadolité. Quelle est votre question, JR?
Oui, monsieur, j'avais des questions à poser à l'invité, mais la première, mes prédécesseurs l'ont déjà posé. Je prends directement la deuxième.
Oui.
Est-ce que les enfants de quel âge sont concernés des Covid-19? Et si on veut sortir des lieux publics, les enfants peuvent aussi porter des masques?
Bien, merci pour la question. Gaylord de Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le directeur. Bon, juste mon intervention, c'est sûr de participer à intervenir parce que j'avais suivi parler conformément des dépistages dans la commune de Gombe. Parce qu'après le dépistage, on a trouvé plus ou moins des trentaines de cas. Bon, c'est que moi, je voudrais dire ceci. Parce que jusque-là, à Kisangani, on n'a pas encore trouvé des cas inter par rapport au coronavirus. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas aussi, ça peut être aussi, il n'y a pas de volontaires qui puissent se dire que moi, j'ai des signes pour aller dans les hôpitaux, la prévention ici, pour se montrer que donc, moi, je suis inter. Donc, cela veut dire qu'il faut aussi amener le dépistage ici en ville des provinces de Kisangani pour savoir que si internement, si possible que. Il n'y a aucun cas ici dans la ville de Kisangani. C'est ça, c'est
ma... Alors, pouvez-vous reprendre la question, Gaylor? On n'a pas bien saisi.
Bon, juste auparavant, on avait parlé ceci. À chaque fois, on passait des messages ici qui est en tête, qui te constate qu'il y a des signes, des par exemple, chaleur, etc. Parce qu'il y a des gens qui sont volontaires, ils peuvent passer, mais il y a aussi des gens qui sont involontaires. Alors, dans ces cas-là, moi, je me demande à vous d'amener le dépistage ici, dans la province de la Tchop.
D'accord, merci. Donc, voilà, qu'on organise... vous demandez à ce qu'on organise les dépistages là-bas, dans la province de la Tchopo. Docteur Michel, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Jody. Toujours des belles questions à la radio Capi. Et j'aime bien les gens qui réfléchissent ensemble avec la radio, avec moi, notamment Marcelin. En fait, Marcelin, je voulais juste te dire qu'en fait, il existe au niveau du ministère de la Santé un programme national de la médecine traditionnelle. Ça existe. C'est un programme justement qui régule la médecine traditionnelle. Et à ce titre, il faut que tu saches que même l'OMS, même le ministère de la Santé publique accepte de travailler avec les tradipraticiens.
Les phytothérapeutes.
Exact. Il faudra tout simplement que ces personnes, quand elles ont des recettes, qu'elles s'adressent à une structure de régulation qui est ce programme et qu'on regarde ce qui va se passer. Je te donne un exemple, je sais pas si tu es au courant que il y a quelqu'un qui est passé sur les chaînes et qui a dit comment est-ce que le Congo Bololo pouvait soigner le Covid-19. Et il y a une maman qui a perdu 3 enfants, si je me trompe pas.
Oui, on a suivi l'histoire.
Voilà. Ouais. Donc, si vous vous mettez justement chacun à dire ce qu'il peut faire avec une plante, imaginez-vous pour le cas de cette maman, si c'était votre sœur ou c'était vos enfants à vous, ce que ça allait faire. Comprenez. Donc, on peut pas aussi laisser que chacun vous sorte une recette.
Parce qu'on connaît pas les dosages,
ouais,
tout ça. Hein.
On a eu des cas de mort à Kinshasa pour ton information. Donc, c'est important de réguler ça à travers un programme national qui est en fait l'outil normatif. Mais deux, sur ta question sur le MS, non, attention, autant on parle de la médecine traditionnelle qu'il faut réguler, autant aussi, aujourd'hui, on va pas laisser tout le monde fabriquer son médicament, tout le monde fabriquer son protocole, tout le monde fabriquer son test et dire voilà ce qu'il faut faire. C'est comme ça que le MS, justement, c'est une organisation de régulation, une organisation qui essaie d'appuyer techniquement les pays en disant, OK, voilà ce qu'il faut faire dans les cas d'espèces. Mais les normes ou les recommandations de l'OMS ne sont pas issues de la tête des gens. Ça part des expériences pays qui sont documentées, prouvées et qui permettent justement à l'OMS de prendre une certaine mondialisation en rapport avec une démarche ou une approche précise. Donc, je suis d'accord avec toi sur la médecine traditionnelle. En tout cas, elle marche dans certaines situations.
Bien qu'il y ait aussi des charlatans.
Il faut réguler parce que là-dedans, vous pouvez trouver des personnes qui ne viennent pas soigner, mais qui viennent justement pour intoxiquer. Et on a déploré des cas de décès liés à cette dérégulation. Alors, je crois que Moza a raison, hein. L'idée, justement, c'est faire en sorte que le dépistage soit accessible. Et si, justement, à ce jour, le pays n'y arrive pas encore autant d'autres pays, c'est juste une question de disponibilité de tests. Je crois que on est en train de travailler dessus. Le jour où on aura des moyens, il y aura un test rapide, on pourrait justement faire en sorte que si quelqu'un veut se faire dépister, il peut aller se faire dépister. Vous avez vu ce qui se passe en Corée du Sud. La Corée du Sud a même donné des tests aux Américains. Donc, c'est possible qu'on arrive aussi à se dire, rappelez-vous quand le sida a commencé, c'était comme ça, hein. C'était difficile de vous faire dépister au sida. Le temps a pris, on a mis en place un test et à un moment donné, on avait un test rapide, quelqu'un pouvait se tester même seul et se dire je suis suspect ou non. Donc ça c'est très important. Donc là c'est vraiment une demande sur laquelle les uns et les autres travaillent. Alors ça rejoint un peu sur ce que notre ami de de Kisangani venait de dire, Kisangani que j'aime beaucoup. Alors, ce qu'il faut, il faut comprendre, c'est que, en fait, c'est vrai que quand vous avez des signes de suspicion, première chose, consulter une structure de santé. D'accord? Éviter de l'automédication, comme j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, j'ai besoin de chloroquine pour commencer un peu à prendre parce que je sens que je vais tomber malade. D'autant plus que la chloroquine, déjà, n'est même pas un traitement préventif. Ça, il faut que je répète. La chloroquine n'est pas un traitement préventif. Faites attention, n'en consommez pas abusivement. Vous risquez de développer, vous risquez de développer des résistances et le jour où vous en avez besoin, ça ne marche pas ou alors vous avez des effets toxiques. Donc, si vous avez justement des signes de suspicion, ben, on va vous recevoir. On va essayer de faire ce qu'on appelle le retraçage de l'histoire de la maladie. Est-ce que vous étiez dans un pays contaminé? Est-ce que vous étiez en contact avec une personne contaminée? Et autour de ça, on peut se dire, il s'agit d'une grippe banale. Où il s'agit justement d'un cas suspect. Et là, on prélève, on envoie les échantillons à Kinshasa. C'est vrai que dans un pays comme la RDC, avec plus de 2 millions de kilomètres carrés, on ne peut pas s'imaginer qu'avoir un seul point de confirmation diagnostique. Donc ici, le travail à faire, c'est de déconcentrer les niveaux de diagnostic pour vraiment améliorer cette accessibilité-là. Alors, pour la tranche d'âge, je crois qu'il n'y a personne qui est épargné, M. Moza, Monsieur JR de Badolité. Il faut que tu saches qu'il n'y a aucune tranche d'âge épargné. Donc, les enfants y compris, il faut les protéger. D'ailleurs, pour ton information, même si on rapporte qu'il y a très peu de cas chez les enfants, ok, on a vu des pays où vraiment en dessous de 15 ans, vous n'avez presque pas de cas, mais il faut savoir que les personnes qui ont une immunité faible sont très exposées à faire des cas graves de la maladie. C'est comme ça que l'âge au-delà de 70 ans constitue un facteur de risque. Mais aussi, comme vous le savez, quand on est enfant, on a un système immunitaire très faible. Donc, quand on attrape la maladie, ça risquerait d'avoir des effets d'accélération. Mais encore une fois de plus, même si les études disent encore que ce sont des tranches d'âge qui sont très peu touchées, mais je pense qu'il faut pêcher par excès en prenant les mesures de précaution autant aussi pour les enfants. Alors, je n'ai pas bien cerné la question de Kimoto. Je ne sais pas si, Jody, toi, tu l'as... Apparemment, c'était une contribution, mais je n'ai pas bien cerné. Mais apparemment, c'est ramassé dans ce qui est... suspicion ou quoi, je sais pas. Mais
oui, Jean-Paul depuis Arou.
Non, Kimoto.
Kimoto, je pense que j'ai pas noté sa question, mais il y a d'abord celle de Jean-Paul de Arou qui dit par rapport, il voudrait voyager, il dit on peut pas empêcher tout le monde de ne pas voyager, on peut organiser des tests, vous venez dès que vous êtes sain.
Exactement, pour le moment, on n'a pas ce test. Est-ce qu'il faut lâcher? Il faut lâcher les soupapes pour que les gens voyagent comme ils veulent parce qu'on n'a pas de tests. Je crois que la prudence serait d'abord que les gens observent la mesure actuelle d'isolation. D'accord?
Je crois que la question de Kimoto, c'était...
On pourra y arriver en disponibilisant les tests en quantité, en qualité, pour que justement les gens peuvent obtenir des certificats de voyage attestant qu'ils ne sont pas malades.
Et puis voilà, je pense que Kimoto a posé la question de savoir, on ouvre les banques et les supermarchés, pourquoi ne pas faire comme au Rwanda où on donne les gens la nourriture gratuitement et puis les députés, les autorités s'impliquent.
C'est un problème de moyens, Monsieur Kimoto. Je pense que probablement la semaine prochaine, on aura une émission très intéressante sur l'RTNC sur les impacts socio-économiques. Je crois que il faut comprendre que les pays qui sont arrivés à lever des fonds pour donner de la nourriture, c'est ce qui est recommandé. Parce que justement, on limite encore.
Gratuitement.
Oui, mais il faut avoir des moyens. Et je pense qu'on doit y réfléchir aussi. Si l'épidémie avance, ben à un moment donné, il faudra justement penser à de telles mesures. Mais il faut les calculer. Encore une fois de plus, pour votre information, on estime entre 40 à 50 millions de dollars par semaine si on confine tout Kinshasa qu'il faut donner de la nourriture à toute la population. Donc vous comprenez que c'est un budget qu'il faut mobiliser. Et les pays qui ont des moyens l'ont fait. Mais ce ne veut pas dire qu'en RDC, on ne peut pas le faire. Je crois qu'il est question de faire des analyses fiscales, de voir notre espace budgétaire et de repositionner éventuellement certaines dépenses en disant ben ça, c'est la priorité. Élever des fonds, notamment dans le secteur privé et autres, et voir qu'est-ce qui pourrait être fait, au moins pour des épicentres très, très pointés en termes de nombre de cas ou en termes de risques.
Alors, docteur, le confinement de la Gombe continue. Les banques vont ouvrir, ainsi que les supermarchés. Et les travailleurs, ceux qui travaillent dans ces banques et dans ces supermarchés, ne sont pas nécessairement, n'habitent pas la Gombe. Donc, ils viennent des autres communes. Ils n'ont pas des badges. Comment ça va se passer?
Alors, moi, je me réserve de vous donner l'organisation administrative du confinement parce que je suis pas d'abord la personne attitrée à vous dire comment ça va se passer. Je crois qu'il faut vraiment que l'hôtel des villes vous éclaire là-dessus. Mais ce que j'essaie, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument que les personnes qui travaillent, les personnes qui travaillent dans les supermarchés, les personnes qui travaillent dans les banques, premièrement, puissent d'abord observer les mesures barrières, ça c'est très clair.
Oui.
Et deuxièmement, moi je pense aussi que lorsqu'on aura suffisamment de tests, il faut que ces personnes soient prioritisées en termes de dépistage. Pour moi c'est clair. Mais maintenant, comment on va rendre disponibles les badges pour que les gens accèdent au niveau de porte d'entrée, ainsi de suite, ben je laisse justement les autorités attitrées à vous donner des informations là-dessus. Mais ça doit être pris en compte si on veut justement que la mesure puisse donner des résultats escomptés.
D'accord, on va faire un tour à Goma dans le Nord Kivu. Un vox pop vient d'être réalisé par notre consoeur Sifa Maguru par rapport à l'isolement, par rapport aux mesures barrières. Je vous invite à suivre ce reportage.
D'abord, il faut reconnaître que le confinement a permis aux familles congolaises, à tous les ménages congolais qui sont dans la ville de Goma, de se sentir plus soudés, de consolider leurs liens, mais aussi d'avoir des moments de partage, de dialogue en famille, ce qui est une bonne chose. Et nous avons aussi remarqué que le confinement a permis à certaines familles d'avoir des gestions plus rationnelles, d'étudier d'autres méthodes, éviter le gaspillage par rapport aux denrées alimentaires, ce qui fait que ça nous a en tout cas permis d'avoir une idée sur comment nous devons gérer l'économie ménagère. Mais il y a une autre question aussi que nous avons vu que le confinement a renforcé, c'est sur le plan sanitaire, c'est que les conditions sanitaires au sein des familles ont été renforcées. Les dispositifs de lavage des mains pour chaque famille, nous avons vu que plusieurs familles ont adopté ces dispositifs-là, et ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, dans chaque famille, vous y entrez, vous voyez qu'il y a quand même des dispositifs de lavage des mains, mais nous pouvons aussi dire qu'il y a eu des impacts assez négatifs par rapport au confinement. D'abord, c'est sur les plan économique, où nous voyons que beaucoup de familles ne sont pas en mesure, surtout des familles qui ont un revenu en tout cas assez faible, où nous avons vu ces familles-là ne sont pas capables aujourd'hui de se prendre en charge, d'avoir des denrées alimentaires au prix que tout le monde souhaitait. Nous avons des difficultés aujourd'hui de faire des achats des denrées alimentaires comme on les faisait jadis avant. Mais il y a aussi la question de l'électricité qui se pose au niveau de notre communauté, où d'accès à l'eau, des questions d'accès à l'électricité qui se posent malgré les appels des autorités pour que ces deux choses-là soient accessibles à tous. Mais nous pouvons dire aussi qu'il y en a des choses qui n'ont pas bien marché, notamment les violences conjugales pour certains couples qui déjà étaient presque déchirés, qui n'ont pas pu être en mesure de pouvoir encore renforcer leurs liens. Nous avons vu plusieurs cas de violences conjugales ont été identifiés. Nous avons reçu plusieurs cas. Donc le confinement nous a aidés, mais nous devons reconnaître aussi qu'il y a plusieurs choses qui n'ont pas avancé. Mais aussi, vous savez, les gens vivent au taux du jour dans la province du Nord Kivu. Il y a des petits travaux que les gens font, qui sont aujourd'hui appelés à disparaître parce qu'il faut éviter l'attroupement. C'est que ça a encore bloqué la prise en charge de certaines familles, ce qui fait que certaines familles sont en difficulté de vivre aujourd'hui et de continuer à se prendre en charge. Et nous pensons que il y a lieu de pouvoir réfléchir aussi sur les plans sanitaires, de comment nous devons améliorer nos conditions sanitaires, l'accès à la santé, aux soins de santé, surtout primaires, au niveau des structures de santé de notre province. Et il y a aussi lieu de pouvoir évaluer comment nos familles vivent, mais aussi avoir une loi qui va réglementer, qui va prévenir les cas de violences conjugales au niveau des familles. C'est une nécessité que nous pensons que les autorités peuvent, en tout cas, sur lesquels elles peuvent travailler pour que la situation s'améliore et dans l'avenir qu'on n'ait pas des conditions qui puissent être non propices à tous les Congolais. Merci.
Il y a plusieurs conséquences de ces mesures, surtout dans le vécu quotidien de la population. C'est notamment, il y a beaucoup de personnes qui prenaient leur stock, mais les stocks sont en train de se terminer, sont en train de s'épuiser. Et ce qui va tuer beaucoup plus de gens et ce qui va faire à ce que les mesures ne soient plus respectées dans les jours à venir, c'est la crise financière. Les gens qui vivaient autour du jour et qui vivent autour du jour, et avec la non-circulation de l'argent, ils ne vont plus respecter ces mesures dans les prochains jours. Là, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est la hausse des prix des biens de première nécessité, excepté les carburants. C'est la seule chose que j'ai vu qui n'a pas haussé les prix. Mais toutes les autres choses ont haussé de manière exorbitante leurs prix, et la population n'est pas en train de tolérer ça.
Et l'autre chose, c'est la peur du lendemain. Tout le monde a la peur du lendemain. Il y a même ceux-là qui sont en train de vouloir nier cette existence de cette pandémie à Goma, parce que depuis presque plus de 10 jours, il n'y a pas de nouveaux cas, 10 jours ou une semaine, il n'y a pas de nouveaux cas qui a été enregistré dans la ville de Goma. Et la population a peur, en tout cas, du lendemain, et la population respecte les mesures, mais la population a peur de mourir, de la faim, au lieu d'avoir peur de mourir avec le corona seulement. Et tout ce que nous pouvons exhorter aux autorités, surtout provinciales, c'est de ne pas aller au même rythme que Kinshasa. Les réalités de Kinshasa sur les plans pandémiques ne sont pas les mêmes qu'à Goma. À Kinshasa, presque chaque jour, il y a des personnes contaminées, différemment de Goma. Si on veut aller au même rythme que Kinshasa, on ne va pas aider Goma, non. Mais si on arrêtait certaines mesures à Goma, dans d'autres territoires de la ville, de la province du Nord Kivu, ça va permettre à ce que Kinshasa puisse être alimenté aussi et combattre la crise sur les plans alimentaires.
Bien, merci Sifa Magourou pour ce micro-baladeur à Goma. Je l'ai dit à l'introduction que la ville de Goma, Beni et Butembo, ces villes sont dans l'isolement depuis 14 jours et cet isolement vient d'être prolongé des 7 jours encore. Une décision prise par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Alors nous tentons de joindre le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, docteur Moïse Kanyere Kakule, qui ne prend pas encore son téléphone. Bon, on va toujours essayer
de vous décharger sur voilà. Moi.
Heureusement qu'on a retenu docteur Michel dans ces studios pour répondre à vos préoccupations. Alors docteur Michel, un commentaire par rapport à ces micro-baladeurs.
Oui, excellent. En fait, j'ai retenu trois messages très importants. Le premier message, c'est la multisectorialité.
Oui.
Le deuxième message, ce sont les impacts collatéraux. Et le troisième message, c'est la contextualisation. Voilà les trois messages que je retiens. Je vais revenir rapidement sur chaque point.
D'accord.
La multisectorialité, je vous dis, il faut le savoir, la lutte au Covid-19, c'est une lutte multisectorielle. Il faut éviter les gens qui pensent que c'est une lutte dans le secteur de la santé. Non. La multisectorialité va exiger l'implication d'autres secteurs. Le transport, l'eau, le genre, la famille, la sécurité, ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'encourage au niveau des provinces, au niveau des entités, quand vous mettez en place un comité de lutte au Covid-19, rassurez-vous que les différents secteurs sont représentés et font leur travail. Un cas simple, on dit qu'il faut se laver les mains. Mais il faut que la régie des eaux vous dise qu'il y aura de l'eau. Il faut qu'il y ait...
Il faut pas qu'on vienne couper encore.
Voilà, il faut pas qu'on vienne couper. Donc ça veut dire qu'il y a un secteur qui doit prendre des mesures. Mmh. On dit qu'il faut respecter les mesures barrières, il faut porter le masque. Il faut qu'il y ait quelqu'un au niveau du point de contrôle, qui est de la sécurité, qui puisse dire, monsieur, vous n'entrez pas parce que vous n'avez pas de masque. Comprenez? La multisectorialité. Ça, c'est très important. Les impacts collatéraux, il faut déjà y réfléchir, je vous dis. J'ai déjà commencé toute une série de réflexions à travers mes pages et en utilisant aussi certains médias, en disant aux gens, attention, nous devons déjà anticiper sur les impacts économiques, les impacts sociaux. Cette crise, elle est sanitaire, mais elle est en train de se muer rapidement en crise économique. Notre collègue du Nord qui vous l'a mentionné. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner quelques éléments rapidement. La Chine, qui est un important acteur en Afrique, la Chine aujourd'hui va tomber en récession. Okay? Vous savez le rôle que joue la Chine dans les marchés,
bien
dans
sûr, l'approvisionnement. Oui.
Aujourd'hui, on estime entre 30 à 80 milliards de dollars la baisse des recettes au niveau africain. C'est beaucoup. En RDC, je crois qu'on fera les calculs.
Ouais.
Et les transactions diminuent. Vous avez la chute des prix des matières premières et du pétrole. Donc, les pays comme le nôtre qui vivent essentiellement de l'exportation, nous allons sûrement avoir des problèmes au niveau de recettes en termes de chiffres. Donc, ça va être important qu'on commence déjà à travailler sur les atténuations. On parle déjà des violences qui augmentent dans les ménages. Okay? Ouais. Il faut déjà anticiper sur ce genre de choses. Quoi? Et on a un secteur principalement informel, les gens qui vivent au jour le jour. Comment justement on fait que ce secteur informel puisse fonctionner et faire en sorte que les enfants aient l'école, qu'on puisse avoir des soins médicaux quand on en a besoin, parce qu'il n'y aura pas que le Covid-19, il y aura d'autres maladies, ainsi de suite. Donc réfléchissons très rapidement sur les impacts collatéraux et en typons, n'attendons pas lorsque on est dans une situation de catastrophe pour courir après. Ça, c'est le deuxième message. Je crois qu'on aura le temps que je vous parle un peu en détail de ces impacts socio-économiques. Et enfin, la contextualisation. C'est très important ce qu'il a dit notre collègue du Nord Kivu. Il faut contextualiser chaque intervention. Déjà, même quand vous prenez Kinshasa, Si vous confinez Gombe, vous n'allez pas confiner Massina de la même manière. Gombe est urbanisé, vous savez fermer là-bas pour que personne n'entre.
Oui.
Mais vous avez des communes comme Massina où vous pouvez sortir par 80 000 trous.
D'ailleurs, donc, en passant,
ça change carrément la donne.
Il y a un internaute qui nous a écrit, Maki Dembou Samuel, depuis la ville-province de Kinshasa. Il propose qu'il y ait confinement des communes comme Ngaliema, Kintambo, Kinshasa, Barumbu, Limete, Ngaba, Kasavubu, Makala et Mongafula, y compris Gombe elle-même encore, car ce sont des communes qui se touchent l'une de l'autre et les habitants de ces différentes communes ne trouvent la prévention de cette épidémie comme leur affaire, raison pour laquelle ils circulent aisément et voire même le marché comme au rond-point Ngaba, Victoire, Yolo, Gambela et voire même au niveau du grand marché sur certaines avenues, il y a plein de vendeurs qui sont côte à côte, donc moins de 30 cm. Bref, le confinement total avec beaucoup de rigueur pour un délai bref des communes si haut citées donnerait vite d'atteindre le pic de cette épidémie en RDC. C'est Maki Samuel depuis la ville de Kinshasa.
Tout à fait. Donc il a raison. Mais en fait, je reviens sur la contextualisation. Quand vous voulez confiner des communes comme Massina et autres, vous devez vous contextualiser. Parce que, voilà, Massina, si vous voulez mettre peut-être un corridor sanitaire, ça peut aller. Vous pouvez imposer certaines mesures, ça pourra marcher. Mais il ne faut pas faire du copier-coller. Autant ici, autant aussi quand vous voulez faire le confinement en dehors de la ville-province de Kinshasa. Donc il a raison, mais encore une fois de plus, tout ce qu'il énumère, ce sont des éléments qui sont contenus dans le package des mesures de confinement, la distanciation sociale, ainsi de suite. Donc, encore une fois de plus, il faut y veiller. Moi j'insiste, je dis sur ça, hein, parce que il faut qu'on augmente vraiment en puissance en termes de communication, mais aussi en termes je dirais même de punition ou de sanctions.
Tant qu'il n'y aura pas de sanctions.
Des personnes qui ne vont pas respecter ça. Ouais. On a atteint des taux très élevés ou des niveaux sublime d'impunité, mais je crois qu'on est dans une situation de vie, il faut que les gens cessent de prendre cette situation à la légère. Donc il faut vraiment y veiller. Il faut y veiller et les gens doivent comprendre que la réussite qu'ils attendent ne sera pas un miracle. Ça va être la subconséquence, n'est-ce pas, d'un engagement communautaire collectif, ça va être la subséquence d'une discipline collective et c'est ça qui va nous aider à aller de l'avant. Donc chacun doit y participer en respectant ce qu'on est en train de dire. En fait, le collectif commence par l'individuel. Moi je respecte, toi tu respectes, l'autre respecte et ensemble et nous respectons, nous y arrivons. Alors quand vous entendez aujourd'hui les gens, y compris certaines autorités, vous disent non mais ça c'est l'affaire de l'État. Les gens pensent que c'est à l'État de faire, c'est à l'État de faire. Non, je crois que l'État a sa part, mais nous tous, chacun
a sa part,
sa responsabilité dans cette réponse.
On va accueillir 3 auditeurs, ensuite on aura les Vox Pop on va suivre un micro-baladeur de Lubumbashi. Ensuite on va terminer cet entretien. James, vous êtes à Lubumbashi, Maître Mbokolo nous appelle de Mbandaka et Justin est en ligne depuis Arou. James de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, moi c'est James Mwabino de Lubumbashi.
James, quelle est votre question?
Oui, je voudrais dire que par rapport aux résultats donnés par le confinement dernier de la commune de Gombe, c'est déjà un résultat bon parce que les 31 cas qui étaient en train de résister dans leur propre logis ont été décelés par cette mesure de confinement qui a eu pendant ces temps et qui continue encore. Je voudrais que cette même mesure soit au moins une mesure qui descend dans toutes les provinces parce que pas seulement que les ministères attendent que les cas se manifestent dans telle ou telle province pour commencer à ériger des mesures barrières avec force. Parce que dernièrement, je peux vous dire que je peux vous rassurer, je dis bien, je rassure qu'à Lubumbashi ici, il y a un problème qui se vit par rapport aux mesures barrières édictées par les chefs de l'État et le ministère de la Santé. Il y a un problème d'abord dans le secteur des transports aujourd'hui. Vous allez voir qu'on a exigé dans un bus, dans un minibus, de prendre au moins 10 personnes. Mais les chauffeurs et même les agents de la sécurité qui sont sur les arrêts, ils permettent n'importe quoi, le bus est rempli. Et dernièrement, ici, j'ai vu une scène sur une barrière d'un camp militaire, camp Bango. Là, vous venez, quand vous avez 10 personnes dans votre minibus, on vous demande de payer 500 francs comme on paye normalement pour passer à cette barrière-là. Mais quand vous avez un bus rempli, là...
vous payez un peu plus.
De donner 1000 francs.
Donc, oui,
ils vous payez 1000 francs. Ils vous laissent passer.
Ils vous laissent passer. Bien.
Il y a même des barrières
D'accord, oui, merci, merci. Oui, James, allez-y.
Je voudrais terminer en disant, il y a même une autre barrière qui est autorisée par le service de l'État, juste pour les mesures barrières à la pandémie. Mais on arrive devant la barrière, on fait descendre des personnes qu'on dit d'avancer à pied pour qu'après qu'on ait passé la barrière...
Et vous allez remonter dans le bus. Oui, d'accord, même ici à Kinshasa, oui, ça se faisait, ça se fait aussi de temps en temps. On va accueillir Maître Mbokolo de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, maître?
Merci beaucoup. C'est maître Edmond Bokolo de Mbandaka. J'ai suivi l'invité ainsi que mes amis de passer par là. Moi, à mon humble avis, je crois que confiner la ville de Kinshasa, confiner Goma, confiner Gombe, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tel que l'invité l'a dit, il faut voir maintenant les conséquences sociales. Parce que j'ai suivi l'un des intervenants, l'auditeur qui dit que le confinement de la Gombe a produit de bons résultats. Moi, j'espère que depuis que Gombe a été confinée, je ne sais pas si les autorités nous ont présenté un bilan. Puis j'espère bien que les cas de coronavirus qui s'augmentent, généralement, ce sont des cas qui s'augmentent dans la ville province de Kinshasa. Et lorsqu'on veut confiner, moi, je crois que ce n'est pas vraiment un moyen qui peut barrer le coronavirus. La moindre des choses, c'est comme les autorités au niveau de Kinshasa ont instauré le port obligatoire des masques et puis la multiplicité ou la sensibilisation à l'utilisation ou au recours de mesures barrières. Je crois que c'est la moindre des choses.
D'accord, merci.
Confiner le Gombe. Et étendre cette mesure dans des provinces, je crois que c'est une mesure drastique pour la population. Si on se compare avec d'autres pays, ça sera terrible. L'invité l'a dit. Dans d'autres pays, il y a livraison à domicile des besoins de première nécessité. Est-ce que chez nous, en RDC, ça sera possible? Je crois que la meilleure des choses, c'est d'abord les mesures barrières et puis le port de masque. Ça pourra quand même éradiquer cette pandémie.
Bien, merci Maître Mbokolo de Mbandaka. Justin, vous êtes à Arou. Bonjour.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachamama, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi. Je suis très content de ce sujet qui parle des confinements. Oui, par rapport à la commune de la Gombe, la commune est confinée. Mais là, j'ai une question. Est-ce que l'État a octroyé les denrées alimentaires pour la population? Et la deuxième contribution, maintenant, nous, ici à Arou, nous sommes en tout cas très exposés parce que c'est un territoire qui se trouve, un territoire frontalier.
De l'Ouganda?
Maintenant, ici, oui, ici à Arou, mais ici, l'État n'a rien mis comme moyen de disposition pour, comme des mesures préventives de cette maladie. Maintenant, les gens entrent, même, on interdit même les gens. Qui ne se transportent pas à 3 à 4. Nous voyons ça ici, c'est comme d'habitude. Et par contre, ce sont des policiers, des militaires qui se transportent même 5 à moto. Or, selon la loi, on était dit ça. Mais là, comment on doit éradiquer? Or, ce sont les policiers et les militaires qui devraient être aussi les exemplaires.
Oui.
Et monsieur, j'ai dit pour terminer, j'aimerais dire à la population aussi, il y a une rumeur qui circule que non. Comment on peut confiner soit une ville ou une commune, etc. Or, l'État a décidé à mon hôtel. Maintenant, ça signifie quoi, monsieur Jedi? Ah, donc, ça, nous souffrons.
D'accord.
Donc, l'État, en tout cas,
oui,
puisse disponibiliser les moyens pour éradiquer cette pandémie.
Merci, Justin. Merci. Depuis Arou. Fidèle, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question, Fidèle?
Oui, c'est Fidel Mboui depuis la ville de Canaan. Pour moi, j'ai aimé la mesure prise par l'équipe de riposte pour confiner la commune d'Ngombe. Je pose une question à notre invité. La mesure est bonne, mais qu'est-ce que l'équipe de riposte propose pour les habitants de la commune d'Ngombe qui se déplacent vers d'autres communes?
Voilà, donc c'est ça... D'accord, merci. Jean-Baptiste de Kinshasa, vous êtes en Galima, bonjour. Jean-Baptiste, vous êtes en Galima, bonjour. Il n'est plus là. On va faire un tour à Lubumbashi. Nous allons écouter ce micro-baladeur que notre confrère Jean Gandou nous propose par rapport à la lutte contre le Covid-19.
La mesure de confinement est très importante dans la limitation de la propagation de Covid-19. On nous demande de rester à la maison. En restant à la maison, dans le confinement, c'est la réduction du nombre de personnes contaminées pour que le pire ne puisse pas se révéler dans nos communautés et que cette expansion se fasse de façon exponentielle. Au fait, si ça ne dépendait que de moi, je crois qu'il est préférable de prolonger cette période de confinement. Mais qu'à cela ne tienne, il faut tenir compte aussi de notre environnement, de notre statut social et de beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Parce que nous le savons, sur le plan économique, sur le plan social, nous n'avons pas de structure et il y a des gens qui vivent journalièrement et les bloquer pendant une semaine ou deux semaines, ça a des impacts. En lieu et place qu'on évite cette expansion exponentielle dont nous craignons nous tous, parfois nous créerons d'autres pathologies dont la famine, dont des complications et tant d'autres résultants du statut économique et social. En définitive, je crois que les mesures barrières, la sensibilisation s'avère être le leitmotiv pour éviter l'expansion de cette pandémie. C'est laver les mains, éviter d'être en contact avec des gens, la distanciation sociale et surtout quand on veut tousser, il faut qu'on se prémunisse et que l'on protège aussi les autres. Je crois que cela peut être aussi très efficace. Alors, avec le port obligatoire des masques, peut aussi limiter la propagation de cette maladie. Parce qu'il faut que les gens bougent pour aller chercher à vivre un peu au quotidien, sinon les pires socio-économiques est à craindre dans les jours à venir.
Ça nous permet d'éviter la propagation de la maladie. C'est pour l'intérêt de la population, c'est mieux. Parce que si on laisse, cette maladie va se propager partout, il y aura beaucoup de morts. Alors il fallait assez qu'on essaye de limiter les dégâts.
Oui, le confinement est bon parce que ça nous permet de nous protéger pour que la maladie ne se propage pas.
Le confinement est bon parce que c'est premièrement pour notre protection et pour éviter la contamination. Tout ça, c'est pour notre protection.
Bon, vous savez que le confinement, ça pose un problème. Il y a un problème de minutes que nous tous ici, on a, il faut que nous puissions sortir pour manger le soir. Mais j'estime que c'est l'une des méthodes la plus efficace pour le moment. Quand les gens se confinent, c'est-à-dire il y a moins de contacts, il y a moins aussi de risques pour être contaminés ou contaminer les autres. Mais si vous pensez que vous avez des gens qui n'arrivent pas à comprendre ces mesures ici, vous avez des pays où on a fait sortir des lions, vous avez des pays où on a fait sortir des militaires sur la route, tout cela pour contraindre aux gens, c'est pour leur bien, mais les gens ne prennent pas conscience de tout cela, qu'il faut se préparer au pire. Le confinement, c'est vrai, ça peut faire du mal parce que nous mangeons du jour au jour. Mais il faudrait que les gens soient conscients que si aujourd'hui ça nous attrape, eh ben, cette personne ne pourra peut-être ouvrir encore sa bouche pour aller sur la route.
Je pense que le confinement est bon. Parce que cela nous permet d'éviter juste d'être contaminé par le virus corona. Parce que si le confinement n'existait pas, je pense à mon avis qu'on aurait déjà été contaminés tous. Quant à moi, je dirais par rapport à moi-même, chez moi, à la maison, oui, ça c'est fait, on l'applique.
Bien, merci Jean Gandou pour ce micro-baladeur sur le confinement.
C'est
réalisé à Lubumbashi.
Excellente réalisation.
Michel, voilà, merci.
Non, mais excellent. Je félicite Radio Capi pour ça. Et d'ailleurs, je suis content, je dis, parce que on a fait une enquête CAP. Mmh. On s'est rendu compte justement que 80% des personnes étaient d'accord que le confinement était une très bonne approche. Mais il fallait juste l'associer aux mesures d'encadrement, notamment... tout ce qui est alimentation, tenir compte du choc économique et tout.
Voilà.
Donc ça, c'est bien, ça corrobore ce qu'on avait déjà comme résultat.
Docteur, on va conclure.
Alors, 3-4 mots.
Voilà.
3 mots. Alors, premier mot, c'est la bonne gouvernance, hein, qui revient partout. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'on ne peut pas réussir cette lutte avec une mauvaise gouvernance, une corruption, une légèreté dans l'application des mesures.
L'impunité,
tout ça. Il faut mettre fin à ça. Il faut qu'on renforce la police, l'armée. Il faut vraiment veiller sur ça, si on veut réussir. On est là pour... une question de vie. Premier message. Deuxième message, il faut travailler déjà en prévention sur les chocs collatéraux, ok, et insister sur la multisectorialité, comme je venais de dire. Et à cela, je crois qu'il faudra beaucoup
il faut beaucoup dire à la population de s'en tenir aux statistiques qui sont promulguées dans le bulletin. Ok.
Pas ce qui est publié dans
non,
les réseaux,
vraiment,
sur les réseaux
bulletin,
sociaux.
Il y a un bulletin que le secrétariat technique sort chaque soir et qui permet justement d'avoir des informations. Je suis d'accord qu'il faut mobiliser des moyens. Confiner, donner des moyens, ça demande de l'argent. Mais aussi, il faut bien utiliser les moyens qu'on a. Le problème, ce n'est pas seulement de dire on a 40 millions, 20 millions, 10 millions, mais les utiliser à bon escient pour arriver justement aux résultats escomptés. C'est très important. Et je pense que, comme l'a dit Fidèle, encore une fois de plus, aujourd'hui, quand je regarde les statistiques, je dis, ah, Dieu merci, les provinces se débrouillent encore bien. Donc, je suis très content de voir qu'il n'y a que 5 provinces touchées. Et même dans les provinces touchées, on sent vraiment qu'il y a quand même un effort pour que les choses soient maintenues. Okay? Pour que vraiment les mesures de lutte soient respectées. Il faut continuer comme ça et il faut encore une fois de plus renforcer les mesures au niveau de Kinshasa pour éviter d'atteindre les autres pays et plutôt les autres
les
provinces.
Les autres provinces, oui.
Mais je répète encore, si on ne peut pas se faire infecter de Kinshasa, n'oubliez pas que nous avons 9 pays limitrophes, donc il faudra justement aussi renforcer les points d'entrée avec les autres pays limitrophes qui sont infectés. Donc là, le contrôle transfrontalier doit continuer. Alors, encore une fois de plus, confinement Gombe ne veut pas dire relâchement ailleurs. Qu'on continue à maintenir le niveau à l'extérieur de la Gombe. Ok? Donc si on pense qu'on va tout finir ici et c'est fini, nous allons voir des cas aller sur d'autres communes. On en a déjà, hein? Donc il faut éviter justement de déplacer juste le problème.
Oui.
Donc on doit respecter les mesures barrières dans les autres communes. Y compris ce que notre ami a dit, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'habitent pas Gombe mais qui viennent à la Gombe? Justement, ces personnes doivent avoir une carte d'accès. Il faut veiller à ce que ces personnes soient checkées régulièrement au niveau des portes d'entrée. Il faut veiller à ce que ces personnes soient prélevées. Et si c'est des personnes qui ont visité des ménages où il y a eu des cas, il faut justement les mettre en isolation, les surveiller et s'assurer que ces personnes ne contaminent pas.
D'accord.
Donc, moi, je voudrais vraiment vous dire merci, Jody. Et ce que vous faites, c'est ça, votre contribution à la riposte. Mais vraiment appeler la population à beaucoup d'espoir, à beaucoup de discipline, à beaucoup de participation. Nous n'allons pas réussir cette riposte si nous ne sommes pas disciplinés, si nous n'avons pas la bonne gouvernance comme socle et si nous y participons pas. Chacun selon ses responsabilités.
Bien, docteur Michel Mouvoudi, expert en santé publique et membre de l'équipe des ripostes contre le coronavirus. Merci.
C'est moi qui
excellente
vous remercie.
Journée.
Merci beaucoup. Bon début de semaine.
Merci à vous
n'hésitez
également.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.
Merci. À la prochaine.
Merci.